Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé Dominique et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces aspirations de l'instant et son désir imminent. L'automne s'effiloche et laisse place à l'hiver. Les nuits se rallongent dangereusement et la lumière se fait nécessaire. Lumière douce et naturelle du jour, suivie de la lumière artificielle et crue des soirées. Comment trouver un équilibre et ne pas sombrer dans la nostalgie? Notre invité du jour est philosophe et poète. Dan, demandons à notre invité comment chasser les idées grises ou au contraire s'en servir comme tremplin. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Hervé Boer, qui nous dira tout sur son écriture et sur la philosophie qui la sous-tend. Merci Hervé Boer d'avoir accepté notre invitation, provoquée tout d'abord par la parution de votre livre « Des astres errants » paru cette année aux éditions L'Harmattan dans la collection « Levée d'encre ». Mais ce livre n'est qu'un tremplin à toutes les questions qui pourraient nous permettre de rentrer dans votre rapport intime entre le philosophe et le poète. Et tout d'abord, Hervé Boer, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'entrer en écriture?
Alors, je l'ai jadis raconté dans une petite bio-bibliographie. Il y a deux raisons. La première, c'est que quand j'étais enfant, j'avais une belle écriture, mais j'avais 5 ans ou 6 ans, et je disais toujours que je voulais être écrivain, mais pour moi, écrivain signifiait bien écrire des lignes d'écriture, mais le mot écrivain déjà me plaisait beaucoup. Et puis la deuxième rencontre avec l'écriture est plus profonde. En fait, j'étais un soir de printemps, autant que je me souvienne, enfant, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, avec mes parents dans un restaurant au bord de l'eau. Et la serveuse qui s'occupait de nous, à un moment donné pendant le repas, m'a regardé et m'a dit que je serais écrivain. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais le fait est que je le suis devenu. À moins de l'avoir été avant qu'elle ne me le dise. Mais... Donc j'ai toujours entretenu un rapport fort et dense avec l'écriture, oui, avec la littérature en général.
Et donc, à l'école, on apprend des récitations. C'est le premier contact, on va dire, avec la poésie.
Oui, et c'est d'autant plus vrai que je n'appartiens pas à un milieu de gens cultivés. Donc chez moi, il y avait très peu de livres, et c'est vrai que l'école, et c'est une de ses fonctions, m'a permis d'accéder à des œuvres, des classiques, qui sont devenus, parmi ces classiques, pour certains, des compagnons de mon existence, qui avancent cette existence, et Mallarmé, Baudelaire, enfin, c'est des gens qu'on étudie plus tard, mais même les fables de La Fontaine ont au moins nourri mon imaginaire, oui. Donc je crois que réciter aussi, c'est tenir dans sa mémoire des vers toujours disponibles qui peuvent éclairer tel moment de la journée, d'une conversation, etc. Et c'est quelque chose pour moi de significatif, oui.
Alors on écrit tous des poèmes, mais à quel âge vraiment avez-vous commencé à écrire? Vraiment?
Oh, vers l'âge de 12 ans, j'écrivais des petites fables, comme Monsieur de La Fontaine. Et puis après, il y a un écrivain qui m'a marqué durablement, sur le plan de l'imaginaire, moins sur le plan de l'écriture, c'est Jules Verne. Et je me suis attaché, vers l'âge de 13 ans, 14 ans, à écrire un peu des petits romans bien plus petits que ceux de Jules Verne. Et Jules Verne m'a entre autres rendu sensible plus qu'à toute autre saison à l'hiver. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand vous disiez que les nuits rallongées dangereusement, eh bien moi je me félicite chaque jour du raccourcissement des jours. Et j'aime beaucoup les nuits d'hiver et les vrais hivers, même s'ils ne sont pas agréables pour tout le monde. Mais, et ça, je le dois à Jules Verne, les aventures du capitaine Atterras et le pays des fourrures, enfin, un hivernage dans les glaces. Ce sont des choses qui m'ont durablement marqué et que je retrouve aujourd'hui, ça et là, dans les livres que j'ai écrits.
Expliquez-nous, Hervé Boer, votre pensée quand vous dites « c'est l'idée que je me fais de l'écriture, cette folie. Moi, c'est mes poèmes que je brûle au nom de la poésie. » Alors, quel est ce feu qui vous consume ? Est-ce que c'est de l'angoisse ? Est-ce que c'est de la souffrance ? Qu'est-ce que ça cache ?
Alors, ce feu, mais c'est encore l'école. Car nous avions un instituteur qui nous parlait de Bernard Palissy, qui, pour trouver le secret de l'émail, a brûlé beaucoup d'objets qui l'entouraient pour alimenter le feu. Et à la fin, comme il n'avait plus de quoi alimenter le feu, il a brûlé une partie de sa maison. Et ça m'avait profondément bouleversé. Il se trouve que j'ai longtemps pratiqué l'écriture sur le mode de la destruction. Par exemple, je ne sais pas, j'écrivais 10 pages, ce qui me prend déjà plusieurs mois, et ces 10 pages à peu près abouties, je les gardais, les corrigeais, et très souvent, elles finissaient à la corbeille. Et l'idée m'est venue dans cette politique de la terre brûlée, l'idée m'est venue de Bernard Palissy, effectivement. Donc c'est un feu presque réel, sauf que je ne brûle pas les textes, mais je les déchire. Mais en même temps, vous disiez la souffrance, l'angoisse, il y a toutes ces choses, mais une jubilation profonde d'écrire aussi.
Et vous dites écrire, vous avez expliqué que vous avez commencé avec l'écriture physiquement, je veux dire. Et maintenant, quand vous écrivez, est-ce que c'est du manuscrit ou du tapuscrit ? Est-ce que vous continuez à...
Non, j'écris avec la main. Et je n'envisage pas d'écrire directement à la machine à écrire, et encore moins, du reste, je ne sais qu'à peine m'en servir avec le traitement de texte. Donc en fait, ce qui se produit, c'est que j'écris des textes qui deviennent, pour les autres, complètement illisibles, donc que moi qui puisse m'y reconnaître. Et après, je confie à des gens le soin de saisir ça sur ordinateur. Là, les gens en question sont soit une amie qui m'a beaucoup aidé de ce point de vue-là, soit ma compagne, qui a le douloureux privilège, parfois, de décrypter des choses indescriptibles et indescriptables. Voilà. Donc j'écris à la main, oui. Et je m'honore d'avoir eu une grand-mère dont le nom de famille était surmain. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait là une surdétermination de mon écriture. Et je le confie en passant, je tourne depuis assez longtemps autour de ce nom, surmain, et peut-être un jour j'en ferai de l'écriture, voilà, à la main.
Alors la poésie vous a amené aussi à être philosophe en quelque sorte. Comment s'est passé ce...
En fait, déjà je vais corriger une chose, et je le dis parce qu'il faut quand même être modeste, je ne suis pas philosophe. Je suis professeur de philosophie, ce qui est quand même très différent. J'ai le sens des proportions. Si Descartes, Spinoza ou Hegel sont des philosophes, décidément, je ne le suis pas. Donc moi, je ne suis que le passeur, comme on dit, de ces grands esprits. Et ce que m'a apporté la philosophie, c'est la rigueur, l'exigence de clarté, même si ce que j'écris peut paraître à certains égards obscur, mais ça c'est l'écriture, c'est différent. Et la philosophie m'a m'a apporté surtout une capacité de réflexion sur la poésie. Donc ce qu'on appelle la poétique, en fait. Et j'ai une poétique assez, assez précise, et ça je le dois et aux études et surtout à l'enseignement de la philosophie. Car les élèves exigent de comprendre ce qu'il leur est dit pour en tirer le plus grand profit, bien sûr.
Et donc, c'est la poésie a basculé vers la poésie ou vers la philosophie ou
pas
bien
du tout,
c'est parallèle.
J'ai continué à écrire de la poésie, qu'il s'agisse du dernier livre, qui est un ensemble de prose ou de poèmes dans d'autres livres. Et je n'ai jamais basculé du côté de la philosophie, sauf que ça m'a permis d'écrire, cette formation philosophique m'a permis d'écrire des textes critiques, des essais, par exemple une monographie que j'ai écrite il y a bien longtemps sur le peintre Jean-Marc Scanneret, ou des notes critiques qui sont contenues dans mes carnets, par exemple. Mais jamais je n'ai basculé du côté de la production philosophique. Je serais incapable d'écrire un livre de philosophie. En tout cas, je n'en ai pas le désir. Et donc, il faut laisser à l'écriture sa folie, justement.
Et donc, en tant que passeur de poésie, vous avez tout de même... la philosophie vous apporte des thèmes, comme je pense au temps. Vous parlez souvent du temps, comme je trouvais ça très joli, de l'arbre du temps.
Oui, mais alors, la philosophie, elle n'a fait... Quand j'ai fait mes études de philosophie et qu'ensuite j'ai enseigné, la philosophie n'a fait que rencontrer des expériences intérieures que j'avais eues auparavant et qui avaient trouvé à se traduire par l'écriture que j'appelle poésie, que j'appelle l'écriture poétique. Et la philosophie, elle m'a plutôt... Comment dire, j'ai plutôt approché parfois la philosophie dans les marges des livres de philosophie pour en faire de la poésie. Par exemple, il y a, je ne sais plus en quelle année, mais il y a longtemps, j'ai écrit un livre qui s'appelle Requiem de Stockholm sur la mort de Descartes à Stockholm dans la nuit du 10 au 11 février 1650. Et j'ai puisé dans l'œuvre de Descartes, en particulier le discours de la méthode, des passages dans le discours en particulier que j'ai trouvé très inspirants. Même si pour le Requiem de Stockholm, je me suis inspiré d'un récit sur la mort de Descartes. Mais par exemple, j'ai écrit un ensemble de poèmes qui n'est pas publié pour l'instant, qui s'appelle L'enchantement de Descartes, qui est alors là vraiment écrit à partir du discours de la méthode, mais des éléments poétiques qui ont peut-être échappé à Descartes lui-même. Par exemple, je donne cet exemple, Descartes se trouve dans son fameux poêle, comme il dit, un soir et une nuit d'hiver, et dans ce poêle, il a l'illumination de toute sa philosophie. Il doit avoir à l'époque 22 ou 23 ans, et c'est au hasard des guerres européennes auxquelles il a été mêlé, et il est bloqué dans la neige, toute une nuit, dans une maison, dans ce poêle. Donc le poêle, c'est un poêle hollandais qui ne fait pas de fumée, et par métonymie, on appelle poêle la chambre dans laquelle on est. Et j'ai trouvé qu'il y avait une force poétique dans ce passage extraordinaire, donc j'ai essayé de... fragment en fragment, d'enchanter Descartes, voilà, et de l'arracher à cette réputation d'être uniquement un philosophe rationaliste. Il est infiniment plus que rationaliste. Descartes sait aussi être un rêveur.
Manusté,
Couleur FM 97.1 avec notre invité Hervé Bauer qui a fait ce choix de la musique, l'Agnus Dei, des litanies de la Vierge de Marc-Antoine Charpentier. Hervé Bauer, pourquoi ce choix ?
Parce que Marc-Antoine Charpentier est un compositeur du XVIIe siècle et il appartient en partie à ce qu'on appelle la musique baroque. Et il se trouve que j'ai longuement travaillé, plusieurs années, à un ensemble de poèmes qui s'appelle « À l'article de la mort baroque » et qui devrait paraître peut-être en 2015. Et à l'occasion de l'écriture de ces poèmes, j'ai beaucoup écouté de musique baroque. Par exemple, un musicien un peu connu qui s'appelle Dumont. Par exemple, les musiciens du XVIIe siècle, mais en particulier celui-ci, c'est-à-dire Charpentier, qui est peut-être l'un des plus grands de ce siècle si considérable en grandeur, justement. Et puis, indépendamment de tout ça, il y a une émotion dans cette musique qu'on va pouvoir goûter.
Merci.
Alors, Hervé Bauer, nous avons parlé tout à l'heure d'un de vos thèmes qui est un peu sur le temps. Mais vous avez bien d'autres thèmes récurrents. Si je devais citer quelques titres qui disent quand même pas mal de choses de vos recueils. Il y a « Froid durieux », il y a « Cécité de la lumière », « Vers la laideur »,« Tombeau »,« Fugue »,« En viande saignante ». Enfin, l'image devient hantée. Quels seraient vos thèmes si...
Alors, le grand thème, c'est ce que Bossuet, dans « Les horizons funèbres », appelle mon lamentable sujet. J'ai écrit aussi un livre dans les marges des horizons funèbres de Bossuet, qui s'appelle « Tombeau de Meaux », M-E-A-U-X, dont Bossuet était l'évêque de Meaux, qu'on appelait l'aigle de Meaux. Et réfléchissant sur les horizons funèbres, ce lamentable sujet, je me suis aperçu que j'avais le même lamentable sujet que Bossuet, qui est la mort, en fait. Mais alors, ça peut paraître un peu consternant, c'est un adjectif de Bossuet, ça aussi. Ça peut paraître un peu consternant, mais en réalité, ça ne l'est pas seulement, ça l'est aussi, mais pas seulement, parce que je pense qu'il est impossible d'entretenir un rapport de quelque profondeur avec l'existence sans y intégrer la dimension de la mort. Alors, ça peut conduire à une poésie qu'on pourrait qualifier de métaphysiquement pessimiste, mais en réalité, la mort, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment se donner de représentation. C'est quelque chose d'informe. Et si optimisme, entre guillemets, il y a, c'est de créer des formes à partir de cette chose informe. Et ces formes, ce sont des poèmes, des récits, qui, sans divertissement, comme dit Pascal, essaient de faire face à cette relation intime et terrible entre la vie et la mort. C'est d'ailleurs le titre d'un très beau livre de Nathalie Sarraute qui s'appelle « Entre la vie et la mort ». Et je crois que ça dit beaucoup de choses, ce titre, sur la pratique de l'écriture.
On retrouve ces thèmes dans « Des astres errants ».
Oui.
Qui est sorti cette année. Est-ce qu'on peut vous demander, peut-être avant d'en parler, de nous montrer quelques exemples de cette écriture sous forme de lecture ?
Alors, je vais lire un extrait du dernier des six récits qui s'appelle « Reclus » et qui commence ainsi. Je reviendrai après, si vous voulez, sur le commencement des récits. « À force de m'agripper au temps qui passe, on me voit les os des mains. Je fais pourtant mine de ne pas bouger. » ou le moins possible, quelques pas dans la pièce, avant de me rasseoir à ma table ou près de la fenêtre, l'air de rien, misérable ruse. Et ainsi, depuis le début, moi, tenu en respect par l'ennemi de toujours. Ma seule et vaine occupation consiste à retarder les choses, quoique le temps, contrairement à nos pendules, ne retarde jamais, le plus souvent, observant, inoccupé, mes mains décharnées sur la table nue, de loin en loin, regardant, comme pour les ralentir, passer les nuages. Et rien d'autre à faire ici, nulle part où aller, car un ordre, d'où venu, me cloue littéralement sur place.
Vous avez c'est dans l'édition prose, mais pour nous c'est une prose poétique. Oui. La poésie, elle est toujours, toujours là, on ne s'en sépare pas. À travers chaque mot que vous choisissez, chaque phrase formulée. Et comment y arrivez-vous ? J'ai l'impression qu'il y a un travail très concentré, très lent, c'est ce que je m'imagine dans votre travail, et autour duquel vous ne devez pas forcément revenir, retravailler.
Alors j'écris lentement, difficilement, avec beaucoup de ratures, de repentirs, de retours, de destruction, etc. Mais il y a toujours une chose qu'on peut appeler miraculeuse dans l'écriture, c'est le moment où, en dépit de toutes ces ratures, c'est vrai d'un vers, mais c'est vrai d'une phrase, soudain surgit, toute armée, sortie de terre, la phrase ou le vers. Et j'ai beau reprendre le texte dans toutes ses ratures, son cheminement, rien ne conduit vraiment à cette phrase. Et donc je ne sais pas d'où elle vient, le vers non plus. Et c'est aussi une des grandes joies de l'écriture. Et par rapport à ce qu'on disait sur la mort, c'est aussi une des grandes consolations de l'écriture.
Dans « Des astres errants », donc c'est une suite de récits. Comment vous viennent ces idées ? Il y a entre autres « La nuit des ciliés ». Là, vous expliquez un petit peu comment vous êtes arrivé ce thème. Si vous pouvez nous le raconter, et puis peut-être pour les autres, reprendre un peu le passage du début et comment vous viennent ces thèmes.
Alors, La nuit des ciliés, dont le titre précédent était Hervé au loup. En fait, il s'agit d'une chose très étonnante. C'est de mon saint patron, qui donc s'appelait Hervé, et qui était une sorte de mystique breton. On pense qu'il a vécu aux alentours du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Et Hervé est né dans des circonstances où il n'était pas désiré, et sa mère a prié Dieu, elle a accepté de conserver cet enfant, mais elle a prié Dieu qu'il soit aveugle. Et donc Hervé est né aveugle. Mais son père a prié Dieu qu'il puisse voir l'invisible. Et donc Hervé, chaque jour, avait une fenêtre ouverte sur l'au-delà. Il était donc aveugle par sa mère et voyant par son père. Et donc ça m'a beaucoup intéressé d'écrire cette histoire qu'au début j'ai écrit, alors c'est vraiment le cas de le dire, en aveugle, car je ne savais à peu près rien de Saint-Hervé, si ce n'est que j'avais acheté une lithographie de Pierre Buraglio qui s'appelle Hervé et son loup. Je me suis renseigné sur cette légende, mais j'avais quelques extraits, quelques petits fragments qu'il expliquait, et donc j'ai écrit en aveugle jusqu'à ce que je trouve un livre publié en Bretagne, consacré à Saint-Hervé et assez curieusement, alors je ne sais pas quelle conclusion il faut en tirer, ce que j'ai écrit était quand même très proche de ce qui est arrivé à ce Saint-Hervé. Mais j'y vois plutôt la nécessité interne de l'écriture qui arrive toujours à ses fins, de ce point de vue, et à sa fin aussi.
Mais voir l'invisible n'est-il pas le don des poètes ?
Oui, d'autant qu'on a... Quand j'étais enfant, je n'en pouvais plus de ces remarques incessantes. Les gens s'extasiaient sur la couleur de mes yeux. Et quand j'ai écrit, 50 ans après, ce récit, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire que mon sein, lui, ait été aveugle. Et mais qu'il soit aveugle ou non, il est voyant, c'est vrai. Et je crois que vous avez raison, c'est le fait poétique par excellence. Hein. Comme on apprenait en grammaire latine, Homère était aveugle. Et oui. Et pourtant, il voyait la mer couleur de vin.
On va préciser que les yeux d'Hervé sont bleus. De mer.
Et les autres récits, comment sont-ils venus ? Il y en a un piéton que vous avez déjà illustré précédemment. Mmh.
Et voilà. Alors, piéton a été publié chez un éditeur qui s'appelait Jean-Pierre Huguet avec deux encres magnifiques de Jacques Truffémus. Et ce tirage, je l'ai repris dans « Désastres errants » sous une autre forme typographique, enfin de disposition typographique. Mais Piéton, comme les six autres récits, est né de ce que j'appelle l'ébranlement d'une première phrase. Alors soit une phrase qui me vient au réveil, ça me rappelle le recueil de poèmes d'André Breton qui s'appelle « Le La », où Breton a noté tous les vers qui lui venaient au réveil, comme ça, dans le demi-sommeil. Soit des phrases qui s'imposaient dans la journée... Et chacun de ces six récits est né entièrement de la première phrase. Et après, je me suis laissé embarquer. C'est Pascal qui dit qu'on est embarqué et qu'il faut choisir. Je me suis laissé embarquer dans le processus d'écriture.
Et on peut connaître ces premières phrases de chacun.
Alors, chaque première
phrase ou un peu plus, non, pour le bonheur de vous écouter,
mais
d'entendre.
Nous pouvons nous arrêter aux premières phrases. Voilà la première phrase de Froidureux. Le temps venu de la glace qui poigne les os, poigne les os, achevé bat la campagne avec la fin des loups.
Et plus loin, j'avais noté, entre autres, « On est fait avec du départ ».
On est fait avec du départ, oui. Et je fais allusion dans ce passage-là, en fait, à une histoire qui m'a toujours bouleversé, puisqu'il est question d'un vieillard qui quitte son domaine à un âge déjà avancé. Et en fait, c'est Tolstoï qui, à la fin de sa vie, donc il a 83 ans, n'est plus satisfait de sa vie de, non pas d'écrivain, mais de comte, avec ses domaines, ses serviteurs, ses paysans, que pourtant il a contribué à éduquer, et il s'en va. Et il meurt quelques jours après son départ, en plein mois de novembre, il meurt dans une petite gare, recueilli par le chef de gare, de froid, d'une congestion pulmonaire, etc., en ayant tout quitté. Et donc, je dis que nous sommes faits avec du départ, c'est vrai.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Hervé Bauer qui nous a apporté comme pour son choix le menuet de la suite pour piano de Schoenberg. Et ce choix à nouveau, Hervé Bauer?
Parce que Schoenberg, j'aurais pu choisir aussi Webern que j'admire beaucoup, c'est le basculement de la musique dans la, ce qu'on pourrait appeler la modernité, plus que la modernité, la contemporanéité, c'est-à-dire la musique atonale, avec la riche postérité qui a été celle de Schoenberg. Et c'est une musique qui flatte mon oreille parce qu'elle me renvoie à certaines formes d'écriture poétique qui m'intéressent chez mes contemporains, ou même à ma propre pratique.
Hervé Bauer, revenons à votre livre « Désastres errants » et à cette fameuse, assez fameuse phrase initiale. Titane, je crois que tu vas nous lire quelques phrases initiales.
Dans l'impasse. Reprenons. J'habite donc l'impasse au fond de laquelle m'attendait le mort. Oui, c'est bien moi qui ai donné l'alerte. La nuit était tombée et il neigeait. Vu l'éclairage, c'est une chance, si on peut dire, que je l'ai vu comme j'ouvrais la porte. La neige ne l'avait pas encore complètement recouvert. J'ai d'abord pensé à un sac de feuilles éventrées. Hésitant, j'ai vu le corps, le cadavre, quoi. Voilà, c'était un essai pour Hervé Bauer de votre sentiment à l'écoute d'une tierce personne lisant vos récits, vos poèmes. Y retrouvez-vous les respirations souhaitées, élargies, restreintes, parce que vous avez le rythme et la musique dans la tête quand vous écrivez et quand vous l'entendez?
Mais je pense dans chaque voix, enfin derrière chaque voix ou au fond de chaque voix, il y a un souffle. D'ailleurs, est mort hier un grand poète de la voix qui s'appelait Bernard Heisig. Et j'avais vu un récital de ce poète où on entendait les voix des auteurs dont il lisait les textes. Et il insistait sur ce souffle qui porte les voix. Et donc, chaque souffle est différent d'un autre. Mais ce qui me frappe quand j'entends lire un de mes textes par une autre voix, c'est que j'ai l'impression d'écrire encore mieux. C'est très curieux, parce que c'est Maurice Blanchot qui disait qu'un écrivain ne pouvait pas être son propre lecteur, sauf peut-être sous cette forme-là d'écouter une voix infléchir le texte selon sa propre inflexion à elle, sans trahir le texte, parce que s'il est écrit rythmiquement, on devrait retrouver quand même ce rythme.
Alors, vous avez un rythme, je dirais même une versification très personnelle. Je suis très frappée dans vos poèmes par ces enjambements continuels, c'est-à-dire de passer d'un vers sur l'autre.
Oui.
Quel est le propre de cette... Qu'est-ce qui vous fait écrire comme ça, en fait?
Alors, ce qui me fait écrire comme ça, c'est, par exemple, le livre sur Descartes, le Requiem de Stockholm. Il est fait de la rencontre, du télescopage de deux langues, la langue du XVIIe siècle et la langue du XXe, puisqu'il date du siècle dernier, ce livre. Et ce télescopage ne peut avoir de sens et être porteur d'un vrai rythme que si on accepte de penser et d'écrire le vers à la fois comme un écrivain du XXe siècle et à la fois comme un écrivain du XVIIe. Et ça donne d'où la nécessité de couper les phrases, effectivement, de faire des enjambements. Mais j'ai poussé cette technique jusqu'à ses extrêmes conséquences dans un livre qui s'appelle « Mise en pièces de la lyre », dont le modèle, un des modèles, a été pour moi... puisque si on met la lyre du poète en pièce, a été l'idée chez John Cage, le John Cage compositeur, de ce qu'il appelait des pianos arrangés, C'est-à-dire qu'il est désarticulé, et le piano donnait des sonorités tout à fait inhabituelles et surtout un rythme tout à fait exceptionnel. Et c'est ce que j'avais essayé de faire parce que je pense, quelle que soit l'admiration que j'ai pour les grands poètes du passé, il n'est plus possible et il n'est plus souhaitable d'écrire comme eux. Mais je leur rends hommage à tous ces poètes, des connus, des moins connus, parce que toujours quelque chose passe de leur écriture à eux dans ce que je fais moi. Par exemple, dans le livre qui s'appelle « Aggravation », il y a deux contraintes. La première, c'est que la main est attirée vers le bas, « gravis », donc en latin, ce qui descend. Et puis la deuxième contrainte, c'est le nom propre. Et j'ai écrit ces poèmes et surgissait un nom propre de poète en général. Et la conséquence est que le poète contaminait en quelque sorte ce que j'étais en train d'écrire. Et donc quand le nom qui surgissait était celui de Baudelaire ou celui d'Apollinaire, le texte s'en trouvait transformé. Voilà. Et donc c'est des expériences. Mais ce n'est pas seulement de l'expérimentation froide de laboratoire. Cette expérimentation n'a de sens que parce qu'elle est fondée sur une expérience, qui est l'expérience vécue intérieurement, et qui est l'expérience d'écrire, qui n'est pas seulement une expérimentation.
Et on peut... Vous avez, par votre façon d'écrire la poésie, les vers, c'est un peu comme Schoenberg qu'on vient d'entendre, c'est un peu ça. On peut tout à fait comparer et mieux comprendre encore votre
rythme.
Rythme.
Enfin, le paranage de Schoenberg me paraît considérable.
Il y a une comparaison. Enfin, on comprend mieux le fil.
Oui. Parce que quand j'écoute résonner cette musique, qui, sans qu'on s'en aperçoive, elle a quand même un siècle déjà. Et quand on l'entend résonner, c'est à chaque fois quelque chose, au sens propre du terme, d'inouï, c'est vrai. Et c'est ce que devrait être un poème, un récit, quelque chose d'inouï, effectivement.
Mais chez vous, je trouve, et dans votre récit poétique des astres errants, on ne sait pas dans quelle période on est, dans le temps. Ça peut être dans le passé, ça peut être le présent, et ça peut être dans le futur. Ça m'a fortement interpellée aussi. J'ai pas pu décider où sommes-nous là, à quelle époque.
Alors, par exemple, dans Froid Dureux, l'imagerie qui est la mienne, c'est celle du Moyen-Âge. Mais à un moment donné, j'utilise le mot charroi, qui peut tout aussi bien désigner quelque chose de notre époque que quelque chose du Moyen-Âge. À un moment donné, il y a aussi les mangeurs de pommes de terre de Van Gogh, donc c'est le 19e siècle. Mais la tonalité, pour reprendre une expression picturale et musicale, c'est celle du Moyen-Âge. De même, le texte, le dernier, qui s'appelle « Reclus », il touche au XVIIe siècle et à Pascal par la langue que j'ai essayé de restituer. Donc cette langue du XVIIe siècle qui me fascine. Mais évidemment, on n'est pas seulement au XVIIe siècle, puisque c'est un écrivain du XXIe qui fait ce texte. Donc je comprends votre... Nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, comme dit Pascal.
Alors dans ces récits, vous avez des noms très étranges, HEB, Métroussé.
Alors, c'est HEB, en fait, c'est mes initiales. HEB.
D'accord.
Et il se trouve que j'entretiens une correspondance avec un certain nombre d'écrivains amis, et l'un d'entre eux, qui est un grand écrivain de notre époque, qui s'appelle Hubert Lucot, a pris l'habitude de m'appeler HB d'ailleurs. Et HB, c'était aussi les initiales de Stendhal, Henri Bell, qu'on appelait HB pour la même raison. Donc moi, je l'ai écrit HB pour qu'on voit apparaître la H avec toute la cruauté de l'hiver, mais aussi une certaine bestialité du Moyen-Âge, à côté d'un raffinement par ailleurs considérable, ce Moyen-Âge. Quant à Métro C, en fait, le nom m'est venu lorsque j'étais dans le métro. Et quand on arrive à Lyon au métro Hôtel de Ville, on a une correspondance pour le métro C.
Et lorsque à quoi ça tient quand même.
Et alors je rêvais dans ces tunnels du métro, j'avais en tête un peu l'Égypte ancienne. Et j'ai trouvé que métro C avec un E à la fin, c'était un nom de scribe égyptien. Et c'est pourquoi il s'appelle métro C.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Hervé Boer qui nous a choisi le lento du quatuor numéro 7 de Chostakovitch. Et ce choix, Hervé Boer ?
J'ai découvert Chostakovitch il y a quelques années et parce que aussi j'étais très attiré par la littérature, non pas seulement russe mais soviétique, celle des camps sur lesquels j'ai écrit, mais ce n'est pas ici le lieu. Et Chostakovitch, il a un statut très curieux. C'est à la fois un musicien qui a été très officiel à son époque, donc l'époque stalinienne, en même temps qui a été souvent rejeté et banni par le tyran, et qui a composé une musique qui reste une musique tonale, contrairement à Schoenberg, Webern, etc., mais qui lui aussi est d'une modernité très grande, et surtout... c'est un musicien dont la thématique est très proche, la mort est très importante chez Chostakovitch. D'ailleurs, son dernier quatuor, le 15e, il demandait de jouer le premier mouvement de façon si lente et avec tant de silence que les mouches mourraient en l'écoutant.
Oh. Hervé Boer, vous êtes champion pour décrire et emporter le lecteur dans une atmosphère, un climat, et qui est dû au rythme, aux espaces. Et pourquoi je dis champion car j'imagine que les mots cheminent lentement avec le souffle et la tenue d'un coureur de fond. Tenir jusqu'au bout. Et vous nous faites traverser la nuit, vous nous faites traverser les brouillards, les intensités à travers le temps, avant, maintenant, on ne sait pas trop, mais tout ça toujours dans un rythme bien, bien particulier, bien à vous.
Oui, vous avez raison d'insister sur le rythme. D'ailleurs, dans la petite quatrième de nos couvertures que j'ai rédigée pour Désastres errants, il y a cette citation de Mallarmé, « Vers, il y a sitôt que s'accentue la diction, rythme dès que style ». Donc pour Mallarmé, la distinction entre prose et poésie n'a pas vraiment lieu d'être. Et tout pour lui est poésie.
En tout cas, pour nous, ce que vous écrivez l'est.
Et je connais une autre course de fond qui s'appelle la traduction. Vous êtes traducteur de poètes grecs. Alors, est-ce que cela apporte un autre regard sur votre travail ? Est-ce que ça l'enrichit ? Est-ce qu'il y a une séparation très nette entre écriture et traduction ?
Bon, c'est deux choses qu'on peut séparer, ne serait-ce que parce que la personnalité des poètes que j'ai traduits n'est pas forcément la mienne. Quand je dis que j'ai traduit, je vais expliquer comment ça s'est fait. Mais je considère, d'ailleurs, je le note dans ma bibliographie, que mes traductions font partie de mon œuvre, enfin mon œuvre entre guillemets, font partie de mes écrits. Alors, en fait, on procède comme ça. Moi, je connais, parce que j'ai séjourné souvent, très souvent en Grèce, et je connais je crois que les Anglais disent le tune de cette langue-là. Je l'ai bien dans l'oreille. Et je sais lire le grec moderne ou ancien, mais je ne sais pas le parler couramment, par exemple. Alors, je travaille de la façon suivante. Nous travaillons de la façon suivante avec un autre traducteur qui, lui, est grec, Kostas Nasikas, et il fournit en quelque sorte la traduction littérale, et moi-même, à partir du texte grec et de cette traduction française littérale, je construis une traduction littéraire. Et quelquefois, je pousserai l'exigence jusqu'à dire il ne faudrait pas dire que j'ai traduit, il faudrait dire que j'ai transcrit, comme on transcrit d'un instrument de musique à un autre, ou dire que, en réalité, je n'ai fait que adapter le grec dans la langue française, tout en essayant, d'où le texte grec sous les yeux, de maintenir certains rythmes et certaines assonances aussi, certains échos entre les mots, et en donner une espèce d'équivalent en français. C'est très difficile pour moi, mais c'est extraordinairement voluptueux. Parce que là, on est vraiment dans le travail de la langue. Et mon idée, parce que j'ai traduit avec Kostas Nasikas une anthologie de 34 poètes grecs, donc ça nous a pris des années et des années, et chacun d'entre nous a fait une préface à la traduction, et j'ai défini la traduction comme un transport amoureux. Alors pourquoi transport ? Parce que le mot métaphore, qui consiste au fond à transporter un sens, une image plutôt, à la transporter dans une autre partie d'une phrase ou d'un vers, etc., on fait une métaphore. Or, quand on se promène en Grèce, on voit des camions sur lesquels il y a marqué « métaphores ». Donc c'est des camions qui transportent des métaphores. Mais non, en fait, ça veut dire que c'est des camions de transport. Et lorsque mon fils était avec nous en Grèce et qu'il était enfant, je lui disais, tu vois, car il savait que j'écrivais, le pauvre a appris à être silencieux toute son enfance pour me laisser écrire, et je lui disais, tu vois, ces camions transportent des métaphores. Alors, il pensait que c'était des gens qui transportaient des poèmes, des vers. Et donc, bien longtemps après, m'est venue l'idée de cette ce transport amoureux au sens, encore une fois, 17e du terme, la passion amoureuse, puis le transport, c'est-à-dire le passage d'une langue dans l'autre par un véhicule qui est la métaphore.
Parlant des métaphores, et donc après la traduction, peut-être de voir ce que vous avez en projet.
Oui,
alors... C'est peut-être le moment d'en parler.
Voilà, après des astres errants, qu'il faut entendre doublement des astres errants et des astres errants. Après ce livre-là, j'ai terminé, j'ai mis la dernière main à un ensemble de 62 poèmes qui s'appelle « À l'article de la mort baroque ». Et en fait, on retrouve donc notre point de départ avec Marc-Antoine Charpentier. Le déclenchement, il faut toujours qu'il y ait un déclenchement de cet ensemble de 62 poèmes, qui pour moi représente beaucoup, c'est le fait d'avoir revu ce magnifique film d'Alain Resnais l'année dernière à Marienbad. Et dans les salons, avec des stucs, des marbres, ou alors les jardins avec des jets d'eau, ou des jets d'eau éteints, des étangs, etc. Et j'ai pris une note dans mon carnet sur ce film, et des mois après a été déclenchée l'idée d'écrire, pas seulement l'idée, mais le premier poème, de faire des poèmes sur l'inspiration baroque. Vous savez que le baroque, c'est la multiplication des formes pour dissimuler le vide, le creux, le creux néant musicien, comme dit Mallarmé. Et donc j'ai écrit sur le baroque en tant qu'écriture, sur le baroque en tant que peinture, sur le baroque en tant que sculpture, en tant que musique et en tant que décor, et en particulier les décors intérieurs des demeures baroques et les décors extérieurs que sont les jardins. Et ça a donné ce livre donc, qui s'appelle « À l'article de la mort baroque », puisque le baroque tourne autour, se divertit, comme dirait encore Pascal, autour de ce néant central. Et d'où le titre « À l'article de la mort baroque ».
On peut avoir un extrait. Avec grand plaisir.
Je vous lis pas toute la section, parce qu'elle est longue, qui s'intitule « La mort emphatique ». Je lis peut-être deux poèmes. « En vains ornements que le néant subjugue, une à une asséchées les fontaines, les divinités sonnent creux sous le burin volubile de l'épouvante. Un bouillonnement sanglant de soleil éclabousse les linges crépusculaires, comme un cantique étranglé qui manque soudain de ciel. En plainte qu'étouffe le drapé emphatique du vide, en épanchement pourpre de sanglots de rose à l'agonie, chut l'éparpillement vocal du haut des corniches sur les dalles sonores du siècle dont la gloire mal éteinte fume encore au milieu des meurtres et des statues. La basse continue du silence, ayant figé les applaudissements, les figures poudrées en proie à l'effroi des miroirs. »
C'est de la poésie de chevet, on a ça, oui, sur sa table de chevet, et on lit, on relit, parce que c'est très 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 dense.
Oui.
C'est chaque mot à nouveau est pesé.
Mm-hmm. Oui. Bien, on va se quitter.
Oui,
déjà
donc Hervé Boer, merci beaucoup, et puis ça va paraître probablement l'année prochaine.
Peut-être en 2015, peut-être dans la même collection que des astres errants, mais je vous remercie l'une et l'autre.
Merci à vous.
De votre attention à mon écriture.
On a tant de choses encore à se dire, donc...
Oui.
À bientôt.
La prochaine fois.
À bientôt.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur Hervé Bauer, Google, vous tapez Hervé Bauer, B-A-U-E-R, et vous avez un peu plus d'histoire encore.